Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Adrien Aigouin, Pierre Dorian.
Avec Marie Zévon GP jusqu'à 18h, 17h45 Kikadi. Alors attention, oui. On vous offre un beau cadeau, hein, le maillot d'équipe de France de basket avec des places de match pour aller voir France-République Tchèque, match qualificatif à la Coupe du Monde 2023 mercredi prochain. Donc vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. C'est un Kikadi nouvelle formule. Hein.
Oui, c'est chacun pour soi.
Et chacun pour soi.
Maryse face à Pierrot, face à Jean-Louis Tour qui nous rejoindra.
Ça me réussit.
quelques minutes avant Rotten Régal. Et aujourd'hui, il y a de tout. Il y a du championnat européen, s'il y a du foot. Il y a un peu de rugby, et puis il y a des BFM TV, comme d'habitude.
Je sais que tu adores les BFM TV. 45, vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Et puis, dans la foulée, il y aura encore une belle soirée de direct en natation et en athlétisme. On va vous redire tout cela avec nos envoyés spéciaux. Il y a le 110 mètres, notamment ce soir, avec beaucoup d'espoir pour l'équipe de France. Mais d'abord, c'est la natation. Et on accueille Julien Richard et Sophie Camoun. Bonjour, messieurs, dames.
Salut Maryse,
salut
à toutes et à tous.
Alors salut, c'est le début de l'athlé, mais c'est la fin de la natation. Et a priori, le bilan va être très bon avec la 10e médaille de Damien Joly hier. Médaille sur laquelle on ne comptait pas vraiment. Sophie, on est bien d'accord, tu nous as dit qu'il ne faut pas rêver.
Bah oui, comme quoi il faut rêver.
Damien Joly, parce qu'il y avait quand même les tout meilleurs effectivement,
les monstres,
mondiaux de cette, ouais, de cette discipline.
Voilà, c'est il a ça. Profité en fait d'une défaillance de Welbrock qui est, on va dire, dans le top 3 mondial. Hein. Welbrock qui sort du Covid, qui n'était pas totalement remis, qui s'est raté hier, et Damien a saisi l'occasion.
En faisant une super course.
Ouais. Alors, il sera notre invité dans quelques instants, et puis on va faire le bilan avec Julien Issoulier, le directeur technique national. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce soir pour peut-être finir en beauté, Julien?
Il y a pas mal de chances de médailles, hein, pour cette dernière soirée. Il y a la finale du 50 mètres nage libre pour commencer à 18h avec Maxime Grousset, la finale du 100 mètres d'eau avec Johan Endoy-Brouard, champion d'Europe sur le 200 mètres, et puis également Yoann Tomac. Il y a Joris Bouchot, ça sera plus compliqué, mais en finale du 400 mètres nage libre, c'est ouvert quand même, attention. Et puis deux relais, les deux relais 4 nages, femmes et hommes, avec là aussi des chances de monter sur le podium. Donc c'est pas terminé, hein, pour ce bilan qui est déjà bien, mais qui pourrait être très bien à l'issue de cette dernière journée.
On va détailler tout cela à partir de 17h30, Julien, mais d'abord nous accueillons le médaillé de bronze du 1500, le français Damien Joly. Bonjour Damien.
Salut, bonjour à tous, bonjour, merci.
Salut Damien.
Salut.
Salut. Salut.
Alors Damien, tu viens de nous entendre, on disait que voilà, hier, avant la finale, on disait qu'il ne fallait pas attendre de miracle. Qu'est-ce que tu ressens en entendant ça? Et puis est-ce que toi, tu étais dans cet état d'esprit-là hier?
Non, bah c'est complètement vrai. C'est vrai que sur ma discipline, les meilleurs mondiaux sont européens. Donc voilà, c'était difficile de se projeter sur une médaille parce que voilà, les chronos mentent pas. On sait que les meilleurs, Romain Tchouk, Paltrinieri et Welbrock ont des meilleurs à 14:35-36 et moi je suis mon meilleur à 14:48. Donc voilà, je savais que ça allait être difficile, mais j'ai été présent, j'ai donné le meilleur de moi-même et voilà, comme Florian Welbrock, comme a dit Sophie, revenait du Covid, n'était pas sa meilleure forme, ça m'a permis de monter sur le podium et c'était super pour moi, une très grande émotion.
Alors surtout Sophie,
comment t'as géré ça, Julien, quand tu vois que Florian Welbrock est en train de craquer, ou en tout cas que tu le passes?
Est-ce que tu le
assez
vois
vite dans
Est-ce
la course, tu le vois
déjà?
Ouais, oui, je l'ai vu. De toute façon, je savais que ça allait partir vite devant les trois. Je pense, j'étais sûr qu'ils allaient partir très vite. Et à 500 mètres, je vois que je rattrape quelqu'un et je vois pas que c'est Welbrock. Je m'en doute fortement et je me dis c'est bon. Si tu restes comme ça, que l'Italien de ton autre côté te remonte pas, t'as une médaille. Donc j'ai essayé de rester focus sans trop penser à ça et rester focus sur ma course. Et au final, je touche et je suis troisième, donc c'est magnifique.
Parce que sur la longue distance, il y a moins de surprises quand même, Sophie. Sur un 50
mètres,
ça se joue au centième. Donc bon, évidemment, tout est possible. Sur un 1500, c'est plus rare quand même.
Bah exactement, c'est plus rare. Comme le dit Damien, il avait 12 secondes, un temps personnel qui était 12 secondes supérieur à Welbrock. Donc il fallait profiter de cette défaillance-là. Et c'est en ça que Damien est très fort, parce qu'il a cette expérience, il a toujours été hyper régulier dans toutes les finales internationales, souvent placé, jamais sur le podium. Et là il a su profiter de l'opportunité, tout simplement. Et moi, Damien, j'ai vraiment envie de te dire que je suis impressionné par ta longévité, ta régularité au plus haut niveau, par ta volonté aussi, parce que tu as su rebondir, tu t'étais pas qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo, tu aurais pu te dire bon, j'arrête, j'ai raté la qualif à quelques centièmes. Et ben non, tu rebondis et voilà, tu es un super champion et franchement, je pèse mes mots quand je dis ça. Je sais pas si vous vous rendez compte en studio et même si les auditeurs se rendent compte, Damien fait du demi-fond, il est au plus haut niveau, il était au championnat d'Europe junior il y a 14 ans. C'est-à-dire que ça fait plus de 15 ans maintenant qu'il nage deux fois par jour, qu'il nage entre 16 et 18 km par jour. Et moi, je me suis amusé à faire le calcul, je sais pas si tu l'as déjà fait, Damien, mais le calcul, c'est qu'il a déjà parcouru plus de deux fois le tour de la Terre en nageant, Damien.
C'était beau ou pas?
Mais c'est... Bon, c'est un peu rébarbatif, c'est souvent la même chose. Mais avec Florent Manodou, on s'est amusé à calculer ça au championnat du monde. C'est vrai que pareil, comme toi, il était intéressé là-dessus. Moi, de moi-même, j'ai jamais fait le calcul et on a calculé, voilà, pareil, ça faisait 14 ans que je nageais deux fois par jour, comme tu dis, entre 16 et 18 km par jour, et ça donne ça. Donc ouais, c'est vrai que je réalisais pas trop, mais ça, c'est énorme. Ouais.
Damien, qu'est-ce qui fait que tu aimes autant le 1005? Voilà, qui pour les gens qui nagent un peu, c'est une torture. Qu'est-ce qui fait que tu aimes autant, que tu es amoureux de cette distance, le 1005? Dis-nous.
Non, bah après c'est toute une question de ressenti, de feeling quand on est dans l'eau, qu'on a cette sensation de glisse, que on prend beaucoup de plaisir quand on est au top niveau, comme par exemple hier sur une finale, je prends beaucoup de plaisir. Mais après, vous dire que tous les jours à l'entraînement je prends du plaisir, ça serait mentir, parce que combien de fois je me lève le matin, j'ai mal partout, je sais que la séance va être très dure et voilà, j'y vais un peu à reculons, mais c'est l'objectif qui compte à la fin et il était présent hier par exemple, donc ça, pour moi, ça efface tous les sacrifices que j'ai pu faire et tous les entraînements que j'ai pu me taper avec Philippe ou les autres coachs que j'ai eu avant.
Alors faut dire quand même.
Tu penses à quoi, Damien? Juste, tu penses à quoi quand tu regardes le carrelage 6 heures par jour? Parce que c'est ça finalement, tu regardes le carrelage et quand tu vois le mur, tu tournes. C'est, tu vas prendre l'autre sens.
Et très vite si c'est possible. Non, mais. Non, après j'ai toujours l'objectif qui est derrière, c'est ça. Je me dis voilà, c'est comme t'as dit, j'ai souvent fait 4e, 5e, 6e sur les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, et je savais au fond de moi que je pouvais encore grappiller, être meilleur et accrocher une médaille. Et puis là surtout c'est que c'est à Paris, donc Paris voilà, c'est je veux finir ma carrière là-dessus, donc c'est un très fort objectif de nager dans mon pays pour représenter la France. Donc ça me booste vraiment tous les jours. Surtout cette dernière année et pour les deux années qui vont arriver.
C'était quand même ta première en grand championnat depuis plus de 10 ans d'équipe de France. Qu'est-ce que ça représente?
Ouais.
On doit se dire que ça doit être un bonheur incroyable là.
Ah oui, non, mais c'est ça, clairement, c'est ça, parce que voilà, à chaque fois, j'étais présent dans la finale, mais je concrétisais pas par une médaille. Après, voilà, toujours, j'ai toujours eu des mecs qui sont 3-4 mecs qui étaient vraiment au-dessus du lot, et après, c'est plus serré en fait. Et je fais souvent partie de ces gens-là. Et voilà, pour une fois, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et arriver troisième de cette course.
Bravo Damien, merci d'être venu dans l'Intégral Sport sur RMC. Mais rendez-vous donc à Paris, hein, puisqu'on a bien compris que c'est l'objectif.
Oui.
Hein.
Oui, exact, c'est ça, c'est Paris.
Merci Damien. Alors,
bravo.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
C'était la 10e de l'équipe de France. Peut-être une ou deux supplémentaires ce soir. On va faire le bilan avec le directeur technique national Julien Issoulier qui te rejoint, Sophie, à Rome. Salut Julien.
Bonjour.
Alors, est-ce que ce sont des championnats réussis ou très réussis pour l'équipe de France?
Bon, réussi.
Réussi, ça peut être, ça pourrait être mieux.
Non, mais c'est réussi pour nous. C'est réussi à différents niveaux. Déjà sur le fait d'avoir réussi à enchaîner les grandes compétitions et puis la longueur de la saison. Donc ça, déjà, c'est un premier élément de réussite. Et puis après, on a vu des bonnes choses et des très bonnes choses. Après, il y a aussi eu certains athlètes qui ont eu un peu de mal à se remettre dedans. Mais en tout cas, globalement, si on prend une perspective un peu plus lointaine, on est satisfait de ces championnats.
Oui, parce qu'on en a déjà parlé avec Sophie. Mais c'est vrai que la natation française se reconstruit après une période quand même de disette. Et toi, tu es arrivé dans cet objectif-là après l'échec de Rio. L'objectif, ce sont les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que tu dirais que jusqu'ici, la feuille de route est respectée?
Ah oui, oui, clairement. Quand moi je suis arrivé, c'était un peu compliqué à tous les étages. Donc on s'est d'abord attelé à remettre en place la structure, on va dire, autour des athlètes. qui était plutôt une affaire interne fédé, j'ai envie de dire, et puis après de retisser le lien avec les structures, les sportifs, et puis progressivement d'améliorer tout ce qu'on pouvait proposer aux athlètes, que ce soit dans le cadre de l'équipe de France, mais au quotidien. Et puis on a vu qu'on avait une faiblesse dans notre organisation, qui était notamment autour du management et du leadership qu'on doit avoir sur l'équipe de France, notamment sur les aspects techniques, et d'où le recrutement de Jaco l'année dernière, même si on travaillait on va dire un peu de manière masquée avec lui depuis quelques années. Voilà, c'est là on a pu officialiser tout ça, et donc maintenant on a eu une équipe de France qui est stable. Là où on est content, c'est que les jeunes sportifs qu'on voyait arriver en 2017, alors ils étaient tout jeunes à cette époque-là, on grandit, et pour certains on grandit très vite. Moi je me rappelle encore que l'année dernière à Chartres, on se disait, est-ce que Léon va faire le temps de qualif au jeu
Marchand.
Et puis un an après on voit à peu près ce qui est devenu. Donc c'est vrai qu'il y a eu tous ces passages de cap plus ou moins rapides de certains. Et puis il y a eu des athlètes sur lesquels on comptait, comme Maxime, comme Johan, qui ont confirmé.
Maxime Grousset, Johan Mendeuil-Brouard.
Qui ont confirmé dans le temps. Et ça amène plein de satisfaction. Après, là où moi je suis vraiment content, c'est que la dynamique autour de l'équipe est bonne, et dans l'équipe est très bonne. Ça veut dire qu'on a des athlètes qui savent pourquoi ils sont là. Moi je vois des comportements quand même changer dans leur approche de la compétition, dans l'enchaînement des courses, dans le comment ils se comportent pour récupérer, pour enchaîner, pour analyser. Je trouve qu'ils se prennent vraiment bien en main. Et ça, c'est un bon gage, parce qu'en plus, ils arrivent à le faire dans le temps. Et on sait que les Jeux, ça sera 9 jours. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité à rester concentré, focalisé jusqu'au dernier moment pour les relais. Et on les voit grandir là-dedans. Donc, moi, je pense que la feuille de route est stable et bonne, et qu'il faut continuer à travailler. Parce que c'est pour ça que je disais, on est satisfait, parce qu'il y a encore plein de choses à améliorer. Et après, peut-être, on sera très satisfait. Mais en tout cas, là, on est satisfait.
Est-ce qu'il y a eu un changement, justement, dans les méthodes? Alors, pas de préparation, mais pour que le groupe soit un peu fusionnel et qu'il soit dans un bon état d'esprit. Est-ce que par exemple on les fait partir plus tard, ou est-ce qu'on scinde le groupe en plusieurs groupes? Comment vous... Je prends des notes, en fait c'est pour l'athlée, hein. Pour voir s'il y a une recette miracle, parce qu'on est, on est un petit peu plus dans le dur, mais il y a des jeunes qui arrivent aussi.
Ouais, après on a plutôt essayé de rassembler les gens, en fait. Donc on s'est assuré que l'équipe de France pouvait proposer le bon environnement et répondre à leurs besoins, que ce soit sur les aspects médicaux, scientifiques, techniques, sur tous ces aspects-là, qu'on soit vraiment une équipe de haut niveau. Et puis après c'est plutôt dans le quotidien, en fait, comment on renforce le lien, comment l'accompagnement, ne serait-ce que financier, humain, au travers des clubs peut se faire, sur quel programme. Qu'est-ce qu'on accompagne? Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Comment on les rassemble? Nous, justement, on essaye de les rassembler pour créer cette équipe. Alors, ça a été un peu le problème pendant des années de ne pas réussir à le faire, parce que les gens ne voulaient pas trop être ensemble.
Chacun
avait plein de bonnes raisons.
Dans son centre d'entraînement.
Voilà. Et en fait, on leur a dit, vous allez être chacun de votre côté, mais par contre, il va y avoir des temps forts. Et là, par exemple, on fait le stage avant les championnats du monde, tous les qualifiés viendront. On a un stage de reprise qui est pour l'instant ouvert à tous ceux qui ont fait des équipes de France.
En incluant les coachs personnels.
Alors attention, parce que là, je ne sais pas si Julien a trop envie d'en parler. Julien, il souligne le DTN. Je vais peut-être donner la parole à Sophie. Il y a un changement majeur pour réaliser ça. C'est l'arrivée de Jaco Verheeren.
Jaco.
Tu as prononcé son prénom tout à l'heure. On va détailler qui il est et quelle est sa mission. C'est l'ancien entraîneur de Peter van den Hoogenband, qui est aujourd'hui le vrai patron de cette équipe de France, Sophie, et qui a justement pour mission de mettre de côté toutes les petites querelles internes à l'équipe.
Fédérer, quoi.
Mais c'est... Oui, c'était un pari qu'a fait Julien et la fédération l'année dernière, effectivement de faire appel à Jaco, qui est une, on le rappelle, la référence absolue en termes d'entraînement. Il a été coach de Peter van den Hoogenband, d'Inge De Bruyne, il est allé entraîner en Australie. Enfin, il connaît tout ce qui se fait dans la natation mondiale, Jaco. Et justement, moi, la question que j'ai envie de poser à Julien, c'est qu'est-ce qui véritablement il apporte de plus dans cette équipe? Est-ce que c'est de l'expertise, de l'exigence, de la confiance, justement cette cohésion qui manquait? Quel est le rôle véritablement de Jaco? Qu'est-ce qu'il a apporté à cette équipe?
Il apporte un peu tout ça, plus beaucoup de temps, en fait. Ça veut dire que son poste, c'est ce qui manquait dans notre organisation, c'est que lui est dédié à ça. Donc, il se lève le matin et il a pour mission de faciliter le travail des gens et le travail de tout le monde. Ça veut dire aussi bien en interne d'être sûr que ben, on est le bon staff médical, que la presse ne viendra pas trop nous embêter quand il ne faut pas qu'elle nous embête, qu'on puisse quand même être disponible et que les athlètes aient l'environnement au top pour eux au quotidien. Est-ce que les stages sont les bons? Est-ce que l'entraîneur a bien challengé lui-même son programme d'entraînement? Est-ce qu'il a bien analysé les faiblesses de chacun des nageurs, voire les pistes d'amélioration? Et donc il est dédié à ça. Donc ça veut dire que toutes les semaines il a des réunions avec les entraîneurs, toutes les semaines il a des réunions chez nous en interne pour être sûr que l'organisation soit au top. Et ça, quand on pense en plus avec toutes les compétences que tu as évoquées tout à l'heure, ben ça fait vraiment une ressource hyper importante pour tout le monde. Et ça les rassure. Ça veut dire que quand ils ont des doutes, bah, discuter avec Jaco, il les ramène à un niveau de se dire attendez, ça c'est pas important.
Alors, c'est discuter,
restons
ou c'est
concentrés
obéir,
là-dessus.
Parce que c'est aussi
non,
une autorité.
C'est discuter. Non, pour ouais, c'est une autorité, mais c'est une autorité, j'ai envie de dire charismatique et technique. Ça veut dire que il est pas du tout dans le conflit, il est vraiment dans la discussion. Je veux pas parler des discussions qu'il a pu avoir, qui ont pas toujours été très fluides, mais en tout cas, on a quand même des gens intelligents en face, tous nos entraîneurs, les structures, et ils se rendent bien compte que quand Jaco leur dit un truc, c'est pas juste pour les embêter, c'est aussi pour faire améliorer le système. Donc, en général, ils nous disent pas qu'ils ont pris en compte le truc, mais on voit quand même quelques petits changements. Et on voit aussi que bah, finalement ils sont rassurés parce que bah, quand il y a une analyse technique, quand il y a une décision, quand il faut trancher, quand il faut responsabiliser les athlètes, bah, Jaco il bouge pas parce qu'il a cette expérience et c'est de ça dont on avait besoin.
Julien, il y a deux ans exceptionnels qui arrivent pour un objectif exceptionnel des Jeux à domicile à Paris. C'est le rêve de tous ces athlètes, vos athlètes. Est-ce que vous avez identifié des erreurs, des écueils à éviter pendant ces deux ans? Est-ce que vous craignez des points précis et avec toute votre équipe, vous dites attention les athlètes, on va les prévenir sur ça précisément parce que bah, la pression va être énorme, on va parler d'objectifs de médailles, etc. Qu'est-ce que vous craignez?
Alors moi je crains pas du tout la pression sur les performances parce que on leur parle que de ça en fait. On leur dit pas il faut que vous ayez des médailles mais il faut que vous soyez à votre maximum. Et c'est ce qu'on voit un peu dans les compétitions avec l'amélioration des temps au fil des tours, au fil des compétitions. Et pour nous ça c'est un vrai gage de succès dans le futur. Donc on est surtout à les focaliser sur cette capacité à améliorer les petits problèmes et tout. Moi ce qui m'inquiète vraiment c'est l'environnement en fait. C'est comment on va gérer les réseaux sociaux. Oui, exactement, comment on va gérer la presse. Comment on va gérer cette pression qui va être sur leurs épaules parce qu'ils vont avoir des milliers de demandes pour avoir une place, etc. Et comment on va les focaliser là-dessus? Et ça, c'est un travail qu'on doit vraiment démarrer et on le fait un peu avec l'ANS et le COJO. J'espère que tout le monde va s'y mettre pour qu'on mette nos athlètes dans ces bonnes conditions. Parce que c'est une nouvelle génération, ils sont très connectés, très en lien avec les gens, avec leurs partenaires, avec leurs amis, avec leur famille. Et donc ils vont être très sollicités. Et nous, il faut qu'on arrive à les focaliser sur la performance. Donc ils le sont, mais il va y avoir plein de distractions autour. Et voilà, ça c'est un vrai risque et sur lequel, à mon sens, il faut que... Enfin, c'est pas contre vous, mais c'est qu'on doit le faire ensemble. C'est-à-dire que donner des moments à la presse et dire bah voilà c'est des moments pour vous, bah il faut les donner et c'est hyper important. Mais par contre il y a des moments où faut pas qu'on vous voit parce que les athlètes ils ont besoin de se concentrer, ils ont besoin d'être entre eux et ils ont besoin surtout de pas se mettre de pression inutile.
Alors à deux ans de l'échéance olympique avec ce potentiel là, on peut espérer combien de médailles? On peut faire un premier objectif?
Non mais c'est intéressant ce que tu dis Pierrot, j'allais poser cette question là justement parce que on se souvient de Londres, les Jeux olympiques de Londres en 2012 qui restent la apothéose de la natation française. On avait eu 7 médailles, dont 3 en or sur la natation course. Alors justement, moi, est-ce qu'on peut viser mieux à Paris? Tu sais bien qu'on a bien parlé médailles.
Ouais, moi, j'aime pas trop parler médailles, mais j'aime bien parler qu'ils soient à leur meilleur niveau. Je pense que si toutes les planètes s'alignent bien, on peut faire fort, en fait. C'est quand on regarde un peu nos athlètes, si on prend Léon et les différentes courses qu'il va pouvoir choisir, si on prend les relais, si on prend Maxime Grousset, si on prend Johan, si on prend Charlotte, si on prend Beryl qui revient, si on prend Marie Vatel, enfin voilà, les opportunités, il va y en avoir. Maintenant, il va falloir les réussir au bon moment. Donc c'est comme tout, hein, c'est pas des katas, ils vont devoir s'affronter avec d'autres nageurs dans un contexte particulier et il faudra être là au bon moment. On le voit, il y a des nageurs sur leurs courses individuelles qui ont été pas très bons et qu'on a réussi à bien rebondir. Ben en fait c'est ça, en fait c'est l'écueil qu'il faudra éviter, c'est qu'il faudra être bon là où on les attendra et pour ça c'est un peu de la science-fiction. Mais après quand on regarde le potentiel, ben il y a un vrai potentiel. Et quand moi j'ai pris ce poste là en 2017, j'ai toujours expliqué qu'en fait les Jeux de Londres c'était bien mais c'était pas top. C'est-à-dire que on a toujours eu une natation qui était focalisée sur un petit nombre d'athlètes qui ont réussi leurs exploits. Et là, je pense qu'il y a une base qui est un peu plus large. Maintenant, dans quelle mesure ils vont être capables de le faire en 24 ou en 28, ça c'est autre chose. Est-ce qu'ils seront d'ailleurs capables de le faire en 24 et en 28, ou ça sera au championnat du monde? Mais notre boulot, ça sera de les amener à leur meilleur potentiel et leur meilleure forme ce jour-là. Et je pense que si tout le monde est bon, ça peut être un des bons jeux.
Sophie, moi, je voudrais poser la question à toi. Toi, tu verrais combien de médailles aujourd'hui avec ce potentiel?
je vais dire la même chose que Julien. Des Jeux Olympiques, c'est une compétition tellement spéciale, mais la natation française aujourd'hui, il y a vraiment un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe en ce moment. Je pense que c'est vraiment le début de quelque chose, même cette année avec Budapest et Rome. Donc, je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on a jamais fait dans l'histoire de la natation française. Mais moi, je voudrais juste dire qu'il y a deux choses vraiment qui m'interpelle justement depuis 2016-2017. La première, et Julien en a parlé, c'est la qualité de notre natation. C'est-à-dire qu'avant, on avait une ou deux individualités qui pouvaient faire des podiums et ça s'arrêtait là. Maintenant, on a une multitude de nageurs qui sont capables de jouer les premiers rôles dans les compétitions européennes et mondiales. Et la deuxième chose, c'est la capacité à être présent le jour J. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un ou deux ratés, mais globalement, quand je me souviens de cette stat des Jeux Olympiques de Rio, une stat douloureuse où sur 28 nageurs, il n'y en avait que 4 qui avaient fait leur record personnel. Alors que quand on va au jeu, on y va pour faire son meilleur temps de carrière ou à minima son meilleur temps de la saison. Et là, c'était vraiment pas le cas. Alors que maintenant, on a l'impression aussi bien à Budapest qu'à Rome, et ben que les nageurs sont capables de gérer cette pression, de se focaliser sur un objectif et de le réussir, quoi. Donc, je trouve que ça, c'est un vrai changement aussi dans notre équipe de France.
Et les nageurs, pour le coup, ils aiment ça, ça veut dire qu'ils sont hyper fiers d'eux. Et quand je vois les retours qu'ils font sur « Ah ben j'ai tenté ça, ça n'a pas marché », ils sont quand même très très au fait de ce qu'ils font dans l'eau. Il n'y a pas de grande surprise pour eux. Alors oui, des fois, ils se crispent à un moment où l'enchaînement de la course, ça fait qu'ils perdent quelques centièmes et ça coûte vite en natation. Mais globalement, ils sont quand même très très concentrés sur ce qu'ils font au quotidien. Et pour moi, c'est encore une fois, c'est un vrai gage de réussite dans le futur. Après, les autres ne dorment pas, les Australiens, les Américains, il faudra quand même aller les battre. Mais en tout cas, on a une natation qui travaille, qui a besoin encore de beaucoup travailler. On voit plein de choses à améliorer. Et pour avoir discuté aussi avec Bob, lui aussi voyait plein de choses à améliorer chez Léon. Et c'est un peu pareil à tous les niveaux. Donc il faut les laisser bosser, il faut qu'eux se restent concentrés à se dire ben voilà, on a fait un petit pas et il en reste plein des grands à faire. Mais en tout cas, ils sont dans la bonne dynamique. Maintenant, voilà, il y a deux ans, c'est deux années exceptionnelles, j'espère, avec quelques hauts, quelques un petit peu plus bas. Mais en tout cas, l'objectif final, ça sera bien.
Et puis peut-être que des nageurs qu'on ne connaît pas encore vraiment, parce que deux ans, c'est long aussi. Oui. Florent Manaudou, en 2010, personne n'avait entendu parler de lui, en tout cas, à part les experts de la natation. Alain Bernard, en 2006, personne n'avait jamais entendu parler de lui non plus. Donc voilà, il y a peut-être aussi, dans les deux ans qui viennent, des nouveaux nageurs qui vont arriver au sommet.
C'est vrai. Je précise que Léon, c'est Léon Marchand. Bob, c'est Bob Bowman, son entraîneur. parce que bien sûr, pour Julien Soulier, le directeur technique national, ce sont des gens avec qui tu travailles au quotidien, évidemment. Ouais. On parle des champions et des athlètes de l'équipe de France de natation. Merci Julien. Merci. Venu faire le bilan sur RMC de ces championnats d'Europe avec 10 médailles et peut-être d'autres ce soir. La grande soirée sur RMC, on va vous la présenter tout de suite avec Julien Richard et Aurélien Tiercin pour l'athlétisme. A tout de suite, c'est l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Dans un quart d'heure, c'est le Kikadi sur RMC pour gagner un maillot de l'équipe de France de basket et des places de match pour France République Tchèque, qualificatif à la Coupe du Monde 2023. Le match c'est mercredi prochain à l'Accor Hotel Arena à Paris. Pour vous inscrire, c'est Kikadi par SMS au 7-32-16.
La Golden Carotte n'est pas tombée encore. Hein.
Jean-Louis Tour n'aura fait illusion qu'une journée finalement.
Non, mais parce que là, il était.
Le boulard.
Golden Carotte, tu peux tomber une chance sur 1, 2, 3, 4. Elle tombe ou pas? Vous vous souvenez de la règle de la Golden Carotte? Elle peut tomber dans la semaine une fois ou pas du tout?
Voilà. Elle est peut-être encore en vacances. Même, puisqu'il n'y a qu'une semaine de Kikadi d'été.
Et à la fin du Kikadi, quel que soit le score, si la Golden Carotte arrive, c'est 0-0, balle de match. C'est la règle.
Alors, ça, c'est à 17h45. Mais d'abord, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Julien Richard à Rome pour la natation et Aurélien Tiercin à Munich pour l'athlée. Rebonjour, messieurs.
Salut.
Avec Sophie Camoun à Rome, avec Julien. Donc ce soir, Maxime Grousset et Johan Ndoye-Brouard, plus les relais, pourraient apporter une 11e médaille à l'équipe de France, Julien.
11, 12, 13, 14, allez savoir, on 14, va voir effectivement. Bah tiens, regarde, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5, il y a 5 finales avec des Français. Il y a Maxime Grousset qui est médaillé de bronze mondial sur le 50 mètres nage libre, hein, Sophie, et qui a réalisé le 4e temps, mais dans la nasse, il y a un favori, c'est Ben Proud, l'anglais, mais derrière, c'est hyper ouvert pour le podium.
Il est champion du monde, Ben Proud, c'est vrai, il est venu que pour ce 50, mais derrière, il y a un truc à faire, et je pense que Max est frustré par son 100 mètres. Et, voilà. Et un Max revanchard, c'est une espèce assez dangereuse.
Et l'espèce aussi dangereuse dans le bassin, ce sera Johan Ndoye-Brouard qui est passé par tous les états ici dans cette piscine et qui a surtout décroché un premier titre international, champion d'Europe du 200 mètres d'eau dans sa toute jeune carrière, 21 ans, et qui aura un coup à jouer. Il a fait le meilleur temps des demi-finales hein, quand même du 100 d'eau en se surprenant.
Oui, après il y a aussi le meilleur nageur du monde, hein, Thomas Tchekhon, qui est dans cette course. Il s'est baladé hier en demi. Il nage à la maison, il est toujours là dans les grandes finales, donc je pense que Johan va plutôt viser, effectivement, il l'a dit lui-même d'ailleurs, plutôt la deuxième place. De toute façon, il n'a rien à perdre, il a déjà réussi ses championnats d'Europe. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il sait qu'il est en forme, donc il veut profiter de ça tout simplement.
C'est quoi sa distance à Johan Ndoye-Brouwer? C'est le 100 vraiment?
Bonne question.
Jusqu'à présent, c'était le 100, parce que sa première médaille internationale, il l'avait faite sur 100 mètres, qu'il a fait sa meilleure place au championnat du monde sur 100 mètres aussi. Mais il a toujours cru en lui sur le 200 et il aime les deux distances. Mais maintenant qu'il est champion d'Europe du 200, et très honnêtement, dans les années qui viennent, c'est peut-être plus ouvert sur 200 que sur 100, où il y a quand même des nageurs aujourd'hui qui nagent beaucoup plus vite que lui.
C'est exactement ce qu'il nous disait après son titre sur 200, que c'est peut-être là où il aura ses meilleures cartes à jouer sur le plan international, même si peut-être à la base il aurait peut-être plus de préférence sur le sprint, le côté 100 mètres, mais il apprend aussi à prendre du plaisir sur ce 200
mètres. Et sa maman, qui l'a formé et qui le connaît parfaitement, a toujours pensé qu'il serait meilleur sur 200 que sur 100.
Voilà. Finale du 400 mètres nage libre homme à 18h53 avec Joris Bouchon, on l'oublie pas. Il n'y a pas Popovici dans cette finale, on est un peu déçu. Il a nagé les séries ce matin et il a déclaré forfait pour la finale, il avait fait le 4e temps. Je pense qu'il est juste venu voir ce que ça valait, il a vu et ça lui a suffi. Il va pas nager un peu de plus dans ce bassin romain où il a battu le record du monde, on le rappelle, du 100 mètres nageable, le nouveau phénomène. Et puis les déroulés, 4 nages, donc 4 fois 100 mètres, 4 nages femmes, 4 fois 100 mètres, 4 nages hommes. Là, c'est toujours hyper ouvert avec une petite surprise, c'est que Charlotte Bonnet va nager le parcours de Brasse dans le relais 4 nages.
Elle a déjà été championne de France sur 100 brasses, Charlotte. C'est vrai qu'elle en fait pas souvent, jamais au niveau international. Mais là, c'est vrai que notre brasseuse ce matin n'était vraiment pas au top. Donc le pari, c'est de mettre Charlotte en brasse et puis Beryl Gastadello, du coup, qui va terminer en nage libre.
Rapidement les horaires, Julien.
Hein, dans ce relais. Rapidement les horaires. 18h, c'est la première finale de 50 mètres nage libre homme avec Maxime Grousset. 18h10, la finale du 100 mètres d'eau, Johan Ndoye-Brouwer notamment. Donc 18h53, la finale du 400 mètres nage libre avec Joris Bouchot. Et puis 19h16 et 19h25, les finales des 4 fois 100 mètres, 4 nages hommes et femmes.
Merci Sophie et Julien. Et donc, c'est bien foutu, mais c'est normal parce que c'est fait exprès. Dans la foulée, ce sera le début de la grande soirée d'athlée. Alors, Aurélien Tiercin est avec nous. Aurélien, bien sûr, il y a le 110 haies. Alors, on va y revenir, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a un gros programme ce soir, hein.
Ouais, parce que si on se prend à rêver d'avoir 4 Français en finale du 110 mètres haies à 22h22, ce sera le bouquet final. On aura 10 Français finalistes ce soir, donc beaucoup de chances de médailles. D'abord à 20h avec la perche féminine, Margot Chevrier qui a la 3e meilleure performance européenne de l'été, qui s'est un petit peu plantée, même beaucoup plantée à Eugene, puisqu'elle avait fait un 0 pointé en finale. Margot Chevrier sera donc en finale avec la jeune Marie-Julie Bonin. 20h15, le triple saut masculin avec deux jeunes Français, Jean-Marc Ponviane, qui n'est plus si jeune que ça, a remarqué, avec 27 ans, mais déjà finaliste à Eugene. Et puis là, Enzo Audebar, qui lui découvre le très haut niveau cet été, lui qui est l'élève de Benjamin Compaoré. Benjamin Compaoré qui a la particularité d'être entraîneur athlète, il a été sorti en qualification. La finale du marteau féminin à 21h05 avec la revenante Alexandra Tavernier, saison très compliquée pour Alexandra qui a eu le Covid, qui s'est séparée de son entraîneur longtemps Gilles Dupré pour revenir avec son papa Christophe Tavernier. Et puis à 21h43, on aura aussi la finale d'un garçon attachant, Thomas Jordier, médaillé de bronze avec le relais à Zurich il y a quelques années désormais, c'était en 2014. La première finale en individuel pour Thomas Jordier, qui en série avait battu son record perso en 45-39, qui en demi-finale a rebattu son record personnel en 45-37. Donc je lui ai posé la question en zone mixte, est-ce que simplement il est dans la forme de sa vie?
J'ai pu contrôler tout ce que je voulais contrôler. Un peu déçu de ma sortie de virage, mais ça ne me porte pas préjudice pour la fin de course. Donc il y a des choses à peaufiner quand même, techniquement, tactiquement aussi. Je pense que je peux partir un poil plus vite, mais ça reste un championnat, donc plus important c'est de passer la ligne en tête, la ligne finale en tout cas en tête, et puis ça reste quand même le plus important.
Donc Thomas Jordier sur le 400, Maryse, c'est une chance de médaille ou faut pas trop
quand tu arrives dans des chronos comme 45-32, oui, sérieusement, oui, effectivement, il y a, je sais plus quel est le nom du candidat qui a fait moins de 45, il y en a un qui a fait moins de 45, sinon il doit avoir le deuxième ou troisième temps, deuxième,
c'est
je pense.
C'est le britannique dont Hodgson Smith.
Donc ça va aller vite en finale, c'est clair, mais oui, il a une chance de monter sur le podium, je pense qu'il le sait et qu'il arrive effectivement dans une forme ascendante et quand tu sens passer une chance comme celle-là, tu t'étais hyper motivé. Thomas, ça fait longtemps qu'il est en équipe de France, qu'il est un équipier modèle, notamment sur les relais. Mais là, c'est sa chance en individuel. Et je pense qu'il va aller la chercher, cette chance.
Alors, oui. J'ai dit peut-être une énorme bêtise, mais ça fait un moment qu'on n'a pas brillé sur le 400, non ?
Mamé Ibrahim.
Oui, Mamé depuis Ibrahim, ouais, voilà.
2016.
Ça fait un petit moment, effectivement. On est plus en vue dans les relais, clairement, 4x4 et 4x100 qu'en individuel, puisqu'on se souvient de la cavalcade magnifique sur le 4x4 de Floria Gay qui gagne les championnats d'Europe, qui fait gagner les championnats de France,
une remontada
extraordinaire. En individuel, elle a toujours eu un petit peu plus de mal. Voilà, collectivement, on est très fort. Et là, Thomas commence à avoir des chronos qui lui permettent de jouer une vraie carte en individuel.
Donc le 400, 21h43. On s'est pas arrêté sur Alexandra Tavernier parce que c'est quand même un palmarès.
Une sacrée histoire.
Il y a déjà une médaille
Alexandra.
Mondiale et une médaille européenne.
Mais une très, très grosse dépression après sa première médaille. Et elle est repartie en grosse dépression cette année, mais qu'elle a géré différemment, c'est-à-dire qu'elle l'a senti arriver, elle a dit bon, cette fois-ci j'essaye pas de m'en sortir seule, donc elle a tout de suite été voir un médecin se traiter, ce qui est un vrai problème aussi, parce que les médicaments vont changer son comportement, vont la rendre un peu plus apathique, ça va être un peu plus compliqué, elle a changé complètement d'environnement, elle est revenue avec son premier entraîneur qui était son père du coup a dû faire de gros sacrifices, c'est-à-dire la rejoindre en Bretagne, arrêter son boulot pour pouvoir la préparer. Enfin, ils ont fait beaucoup, beaucoup de sacrifices pour qu'elle revienne. Elle reprend peu à peu goût à la compétition, mais c'est encore fragile. C'est une jeune femme fragile que je trouve éminemment attachante, qui ne s'est jamais cachée sur ces problèmes de dépression dont on parle de plus en plus et qui en même temps sait qu'elle est un peu sur la sortie de la dépression, qu'elle peut aller chercher quelque chose, voilà. Mais il faut qu'elle soit dans cet équilibre mental qui va lui permettre de reprendre du plaisir, alors qu'il y a peu elle, non seulement elle avait envie de tout arrêter, mais elle confiait même à Stadion Actu que pendant certains championnats, elle s'était trouvée en plein milieu de championnat, tout d'un coup à pleurer, à se dire mais qu'est-ce que je fous là, je veux juste partir, quoi.
Et puis donc le 110, alors les horaires, parce que ça va se passer en deux temps, il y a quatre Français, les demi c'est aux alentours de 20h30, est-ce qu'on a déjà les start list Aurélien ?
Absolument.
Alors, ça se répartit comment ? Ils sont deux dans chaque demi ?
Il y a trois demi-finales. On va avoir un Français dans chaque demi-finale. Alors j'ouvre évidemment mon petit ordinateur pour avoir le temps de te donner les bons horaires pour pas me tromper.
En général, c'est à ce moment-là que ça bug, normalement.
Hein. Non, voilà, tout va bien. Alors là, pour le coup, en Allemagne, ça marche très bien. La première demi-finale à 20h30 exactement. Juste Kwau Maté qui sera avec Asier Martinez, l'espagnol dont on parlait tout à l'heure avec Renaud Longueur, effectivement, le médaillé de bronze au dernier championnat du monde. Donc ça, c'est la première demi-finale. Deuxième demi-finale à 20h42 avec Pascal Martineau-Lagarde qui, là, est le grand favori de sa demi-finale. Il y aura notamment le Chypriote Milan Trashkovic qui a déjà été champion d'Europe du 60 mètres en salle, mais voilà, Pascal Martineau-Lagarde qui devrait passer dans ses deux premiers. Et puis la dernière demi-finale à 20h34 avec Sacha Zoya, avec Aurel Manga. Donc là il y aura deux Français aux côtés notamment du Britannique David King, du Polonais Damien Schicker et de l'Allemand Gregor Traber. On a vu qu'à domicile ça pouvait porter largement les Allemands, donc là ce sera peut-être plus chaud. Il faudra pour Sacha Zoya être très costaud, on l'a vu au Mondiaux, malgré ses énormes chronos cette saison, son 13-17 notamment, son 13-21 à Monaco. Eh bien, Maryse, voilà, Ladji nous l'avait même dit avant, quand on est en grand championnat, il faut savoir passer les tours, parce qu'il avait été aux alentours de 13-45, 13-50 au Mondiaux du Jean, et avec un chrono, même aux Europes, ça ne passera pas en finale.
Oui, oui, tout à fait, mais là on le voit bien mieux, il est plus sur la lancée des championnats de France avec une prise de confiance, puis je crois que quand on arrive à 4 on se sent un peu plus épaulé, même si ce sont 4 concurrents aussi les uns contre les autres, mais malgré tout c'est une grosse team et tout d'un coup on sent qu'on est un peu les patrons, on peut prendre un peu plus de confiance, mais effectivement la clé ça sera le relâchement, la décontraction, ce que la forme visiblement il l'a, même s'il reste, il a toujours des petites fragilités physiques, hein, c'est tout
pour Sacha Zoya et Aurel Manga que pour Pascal Martino Lagarde. Tu confirmes
Oui, start list, oui, hein. C'est ça. C'est-à-dire que le premier qui va s'inviter en finale, et puis après, c'est les temps. Les deux premiers, c'est ça? Les deux premiers et les deux meilleurs temps, si je ne m'abuse.
Deux gros culs, deux petits culs.
Voilà. Donc,
le gros cul, donc
je ne sais pas qui a le plus petit cul pour passer en finale. On verra ça ce soir.
Donc, si vous n'êtes pas habitué, hein, c'est parce que c'est la lettre Q qui s'affiche à côté du nom des athlètes qualifiés à la télévision.
Ce n'est pas parce qu'Aurélien, tout d'un coup, se lâche et détermine que certains athlètes ont des gros culs et d'autres des petits culs. Hein.
La finale, c'est 22h22. De la soirée.
Merci Aurélien. Donc à suivre tout à l'heure sur RMC. On va finir avec le Kikadi. Oui. Et ensuite c'est Roten Régal sur RMC.
Alors dans le Kikadi, Maryse va râler parce que dès qu'il y a une question rugby, elle va dire ah, mais pourquoi du rugby
alors qu'on est en championnat européen. Pas de problème avec les questions rugby, c'est quand on met 3 alors qu'on est en championnat d'Europe.
Il y aura de l'athlée, Maryse Evangépé.
Hier, tu es remonté quand même en 1994 pour essayer de me coincer.
Il faut se cultiver un peu, il faut se remémorer les bons moments.
Mais me demande pas qui était le champion olympique du lancer du marteau en 1960, je sais pas combien, je ne sais pas.
Hein. C'est Jean-Louis Tour qui aura la bonne réponse sur cette question. Il arrive, il a
tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Adrien Aigouin, Pierre Dorian.
L'Intégral Sport tous les jours 15h-18h sur RMC. C'est l'heure du Kikadi.
RMC, le Kikadi.
Pas du tout les BFM TV, donc tu te calmes sur les BFM.
Ah d'accord, j'ai des consignes avant de poser les questions.
Alors, on recommence. Dans le Kikadi, maillot de l'équipe de France de basket, plus des places de match pour France République Tchèque. Et nous sommes donc trois pour trois auditeurs, Arnaud, Bastien et Philippe. Jean-Louis Tour nous rejoint pour compléter ce Kikadi de rêve.
Bonjour, moi j'ai les BFM. En revanche, j'ai pas un truc rugby.
Ah, mais moi aussi j'ai les BFM.
Ah, il y a quelques questions rugby.
Le rugby, ça tombe, c'est incompréhensible.
C'est vrai? Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas d'actu rugby.
Il y a une actu. Il y a une actu rugby. Ouais. Bien sûr, il y a une actu rugby la dernière heure. Surveillez.
Révisons.
Arnaud, tu es le premier à choisir. Jean-Louis, Maryse ou moi?
Je vais prendre Pierre.
Allez. Ensuite, nous avons Bastien.
Bonjour. Moi, je vais choisir Maryse.
Oh, merci.
Et donc Philippe de Brive-la-Gaillarde jouera avec Jean-Louis Tour.
Je viens Jean-Louis, moi.
Et voilà, une ville de rugby, Jean-Louis, Brive-la-Gaillarde.
Il est en train de chercher le rugby.
Bien sûr, je ne trouve rien.
Qui qu'a dit? Allez, on démarre, c'est parti. La Golden Carotte n'est pas tombée, elle peut tomber à tout moment, aujourd'hui, demain, ou pas. Qui qu'a dit? Je remercie le conseil d'administration de la fédération. C'est un privilège d'occuper ce poste. Ce n'est jamais quelque chose que l'on tient pour acquis. Contre toute attente, sa fédération a décidé finalement de le maintenir en poste. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était sur la sellette.
Mais je sais pas en France, on est d'accord.
C'est pas en France, c'est pas en France. Et c'est ces dernières heures.
Je l'ai, mais
l'actualité
j'arrive pas
rugby.
Le
Jones,
Smith. presque.
Merde, c'est rien, moi.
Ah, il devait se faire virer et puis finalement.
Foster.
Eh oui, Ian Foster, le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, la meilleure équipe du monde. C'est l'actualité de ces dernières heures. Finalement, il était maintenu en poste pour la Coupe du Monde. Ian Foster.
Il n'arrête pas de me regarder pendant la question comme si c'était un truc.
Non mais avec
Smith,
vous pouvez trouver. Jones,
il nous a fait déjà le coup du sélectionneur.
Il y a deux choses à savoir dans la vie. C'est le sélectionneur du Brésil en foot et la Nouvelle-Zélande en rugby.
Oui, bien sûr.
Le premier point.
Qui est le sélectionneur du Brésil en foot?
Tite.
Du Brésil en foot? Je croyais en rugby, j'allais dire.
Allez, BFM TV, Jean-Louis les a toutes, ouais, apparemment.
Normalement,
c'est 6 minutes. Alors, ça va prendre du temps, je pense, celle-là. Ce matin, à 8h02 du matin, au petit-déj, dans quelle ville se trouvait forcément Emmanuel Macron?
À Kiev? Non, il est revenu.
Pas du tout. Comment?
Brégançon.
Alors, il se trouvait au fort de Brégançon, mais c'est pas une ville, Brégançon.
Ah mince.
Alors là,
dans quelle commune du Var se trouve le fort de Brégançon?
Il est Toulon.
Quelle commune du Var? À Cannes?
Je vais vous donner les initiales de la ville. C'est très, ça va fuser. BLM.
BLM.
Ouais, B-L-M. C'est très connu, c'est très touristique dans le Var.
Bormes-les-Mimosas.
Maryse. Oui, le fort de Brégançon se trouve.
Bormes-les-Mimosas. Ça va aller très vite. Ça va jamais très vite.
Un point pour Bastien, zéro pour Philippe.
T'es sûr que Brégançon, c'est pas une ville?
Non, fort de Brégançon qui se trouve sur la commune de Bormes-les-Mimosas.
Pas un lieu dit?
Non, alors figure-toi que quand je prépare le Kikadi, je vérifie.
C'est peut-être un bonhomme. Il était ailleurs.
Ouais, non, 8h02, il était tranquille au petit-déj, en train d'écouter les infos sur RMC, forcément. Kikadi. Ah, nous sommes allés visiter le spot de Teupu. Tony Estanguet en visite à Tahiti sur le site du surf.
Qu'est-ce que je fais là?
Visite professionnelle. Il a des visites professionnelles. C'est très sympa l'été, Tony Estanguet. Il est parti à Tahiti vérifier les installations du surf.
Et d'ailleurs, il a surfé.
Il a dit tout est prêt. Et puis il est reparti.
Ça, tu l'avais pas vu, Jean-Louis.
Qu'est-ce que tu fais? Il a dit tout est prêt, mais par contre, il n'y a pas de vent.
Alors, ça, il peut pas le prévoir. 2 points pour l'équipe d'Orient Arnaud, 1 point pour l'équipe d'Orient GP Bastien, 0 pour Tour 45. Philippe.
C'est une journée de 110 mètres et au championnat européen. On a 4 Français qui sont potentiellement finalistes, potentiellement médaillables. Ladji Doucouré est champion du monde. Mais dans quelle ville?
Athènes. À Helsinki.
Helsinki. 2005, Helsinki, l'histoire de Ladji Doucouré, champion du monde sur le 110 et... Bon, Marie y était, c'est un peu facile pour elle.
Ouais, mais t'as vu, j'ai du mal à sortir. Ouais. Je suis pas assez rapide.
Question auditeur.
Alors, Arnaud, Bastien et Philippe.
Question très facile pour démarrer. C'est une compétition des plus regardées dans le monde. Donnez-moi le nom du vainqueur du Tour de France cette année.
Vingegaard.
Vingegaard. Arnaud, bonne réponse d'Arnaud.
Je me note pour le kick-addy.
Jonas, Vingegaard. C'est Arnaud, c'est sûr.
Vingegaard, je sais même pas.
3 points pour Arnaud, 2 points pour Bastien, 0 pour Philippe.
C'est un Kikadi qui est pas mal. 17h45, non, 3 minutes 45 dans ce Kikadi, il est 17h52. Kikadi, je pense que Cruyff aurait eu honte de voir comment le Barça se comporte aujourd'hui dans la gestion, hein, dans la gestion du club. Je pense que Cruyff aurait eu honte de voir comment le Barça... Alors, c'est pas une légende du Barça du tout. Il a marqué l'histoire d'un autre grand club européen, Marco Van Basten, le néerlandais, qui s'exprime sur le Barça. Il a mal pour Cruyff. Il dit que si Cruyff voyait ça, il ne serait pas content du tout. Il serait malheureux.
Donc, parti trop fort lundi, moi.
Pour l'équipe Arnaud et Dorian, 2 points pour l'équipe Bastien et Van GP, 0 pour Philippe Jean-Louis Tour.
BFM TV. Alors. Samedi, c'est le retour de The Voice Kids sur TF1. Pierrot, tu seras là. Deux nouveaux coachs, Luan et quel autre nouveau coach?
J'avais Luan. J'avais Luan.
C'est un garçon.
Vianney.
Mika. Qui est un peu barré, il a un univers particulier.
Ah, c'est Catherine.
Non. Plus jeune que Philippe Catherine.
Barré, plus jeune que Philippe Catherine.
Découvert dans la Nouvelle Star à l'époque. Doré, Julien Doré. Bien joué.
Bravo, Louis Tour. Je les avais.
Ah, le premier point pour l'équipe Philippe Jean-Louis Tour.
On a à samedi, Pierrot, pour regarder The Voice.
On va regarder.
Question auditeur, la deuxième.
Arnaud, Bastien, Philippe.
Plus dur. On révise la Ligue 1 parce que la Ligue 1, ça a repris. Mais
avec Bastien.
En foot, c'est une équipe qui marche bien en ce moment. Comment s'appelle l'entraîneur du LOSC? Non, c'est pas lui. Il a changé en plus. C'est plus Gourvenec. C'est un Portugais. Alors, c'est presque l'homonyme d'un consultant célèbre argentin qui travaille sur beIN Sport. Presque l'homonyme. Ah non, ça commence par un F.
Mais c'est des rugbymen.
Fonseca,
oui. Oh, ouais. Philippe à la bonne réponse.
Il y en a un qui a dit Fonseca, le Fonseco.
Fonseca, oui.
Philippe, c'est moi ça, non?
Philippe, c'est l'équipe Jean-Louis Tour.
Ah non, c'est pas juste.
2 points.
3-2 là.
Pour Philippe 3-2. Et Bastien. Non, 4-2.
Il reste 1 minute 30 dans ce Kikadi du jour. BFM TV, la troisième et dernière. On y va. Kikadi. On m'a proposé de faire partie de Mask Singer, mais j'ai répondu à l'équipe de l'émission. J'ai répondu à la prod.
Dimeco.
Jean-Pierre Foucault.
J'ai vu ça. Allez, 4-3, on y va.
Écoutez-moi bien, j'ai pas bossé pendant 50 ans à la télé pour terminer en courgette.
Bravo,
Jean-Pierre.
Bravo, Jean-Pierre. Ça, on aime.
Très joli punchline, Jean-Pierre. Ah. Il est libre, Jean-Pierre, il dit ce qu'il veut.
Bien sûr.
4, 1 minute
3, 2, 4 points pour l'équipe Arnaud Dorian, 3 points pour l'équipe Philippe Jean-Louis Tour, 2 points pour l'équipe Bastien Maryse.
C'est un héros de la fin de saison qui s'exprime. Qui est
Delors.
Je reste un joueur de rugby avant tout. Je ne veux pas non plus passer pour un
Dupont.
Pitre. Il a rappelé qu'il n'était pas forcément un pitre, mais qu'il est tout un très bon joueur de rugby.
C'est le gars de Montpellier.
C'est le gars de Montpellier dont on a beaucoup parlé. On a invité dans toutes les émissions.
Il
a interpellé Moscato.
Saint-André.
Non, un joueur.
Non, je m'en rappelle plus.
Un avant.
Je m'en rappelle plus.
C'est grave. On pourrait croire qu'il joue avec l'Italie. Hein.
Non, c'est gravissime.
Mais bien sûr.
On l'a invité deux fois. Il a fait des vidéos avec ses copains.
Je m'en rappelle plus.
Pellistri. Non, pas du tout. Bon, si je vous donne son prénom, ça va fuser peut-être pour Marie Zépiro.
Allez.
Pas sûr.
Enzo Forletta.
Mais oui.
Joueur de Montpellier, héros de fin de saison.
Le nombre de lettres.
Donc, alors, attention, il y a le vrai qui est fait.
Donc, soit c'est gagné pour Arnaud, soit il y a la Golden.
Alors, il est 17h56 déjà. Oh là là, il y a
Montpellier là. Pourquoi parler de lui?
Mais dans le Gali, il n'y a pas forcément de lien.
Il n'y a rien.
De toute façon, la Golden Carotte, c'est aujourd'hui. C'est ça le lien de la vie.
Très bien.
Voilà. Alors là, je suis désolé, c'est très facile, donc ça va être de la rapidité et c'est très facile pour tout le monde. On a vécu un magnifique concours hier, mais rappelez-moi, qui détient encore le record du monde de saut en longueur?
C'est bien sûr
Mike Powell, Maurice, il mangeait le fil. J'ai failli me manger. 8m95 à Tokyo en 91, ça tient toujours.
Allez, c'était de la Bastien, tu gagnes ton maillot de l'équipe de France. C'était place de match pour France République Tchèque. Bravo à toi. C'est gagné. Le programme de Roten Regal Jean-Louis Tour.
Rappelle-moi le nom italien de la cité, Priverilli.
Alors, je précise que déjà, c'est Roten sans flamme, l'émission. Roten Regal, c'était il y a 2 ans. Je précise ça. Et ensuite, moi, j'ai dit Sotomayor quand même.
Pourquoi pas?
C'est pas la même discipline.
Oui, je me suis trompé de tout. Bon, coach Courbis arrive pendant 2 heures. Les départs au PSG, ça y est, enfin, le loft se réduit. Est-ce que c'est ça la clé de la réussite pour la saison du PSG? Coach va vous donner son avis dans un instant. Et puis d'ailleurs, t'as vu passer ça, Pierrot, info de nos confrères du Parisien. On serre les vis, il n'y a plus de coca à table.
Mais ça va tout changer. Et surtout, ça va régler les problèmes entre Mbappé et Neymar.
Il n'y a plus de coca.
Génial.
On verra ce qu'en pense coach Courbis. En plus de tout ça, Rabiot sera l'accusé du soir, accusé de ne pas être lucide sur son niveau quand on voit ses exigences à Manchester United. Et puis l'ADN à Lyon, le centre de formation, etc. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Peter Boss en a parlé.
Allez, moi je vais me faire un petit coca. À demain, 15h sur RMC.
RMC Intégral Sport.